C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Bonsoir, Danny. Bonsoir, Martin.
Salut, Mario.
Salut, Mario.
Alors, les gars, dans un premier temps, un petit retour sur le match d'hier et les propos de Martin Saint-Louis qui ont déclenché quand même là une vague de, je dirais pas de mécontentement, mais beaucoup, beaucoup d'appels hier par rapport au fait qu'on se contente de peu. Et ici, après la rencontre, on se disait, ben tiens, en deuxième période, le banc il était à même distance pour les deux équipes. On en a parlé hier ensemble, d'ailleurs, Danny. Est-ce que vous voyez les mêmes éléments positifs que Martin décrit dans son après-match ou vous trouvez qu'on embellit un petit peu la réalité? Tiens, Martin, je te passe la ronde.
Écoute, moi, je pense que Martin Saint-Louis fait très attention pour ne pas affecter, briser ou saccager le climat qui est nécessaire pour que cette équipe-là continue de progresser dans un environnement, je dirais, assez positif. Il fait très attention à ça. Il fait très attention pour pas envoyer un message de découragement, envoyer un message de c'est pas bon, on s'en va pas au bon endroit avec ça. Il est très, très méticuleux quand il choisit ses mots, surtout après les parties, parce que c'est arrivé quelquefois, Mario, tu sais, qu'il a été un peu plus tranchant. Est-ce que ça a bien servi l'équipe? Est-ce que ça a bien servi les joueurs ou les individus qui ont été visés par des propos plus tranchants? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, pour moi, Mario, le banc est loin pour les deux équipes là, en deuxième période, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, il y a des équipes à maturité comme les Rangers qui sont une des meilleures équipes de la Ligue nationale en deuxième période. Puis il y a des équipes qui se développent comme le Canadien qui sont en train de se bâtir, pour qui le banc, il est trop loin certains soirs, il est trop loin à certains moments. Puis moi, je pense que, je sais pas ce que Danny en pense, on n'en a pas parlé de ça ensemble, là, mais moi, Martin Saint-Louis protège le climat autour de ses joueurs et autour de son équipe.
Ah, clairement, Danny, hein?
Ben moi, je pense qu'il essaie de maintenir l'équilibre, puis l'équilibre, c'est que les vraies affaires, c'est pas de nos affaires, comprends? Les vraies affaires, il dit entre quatre murs, les yeux dans les yeux. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas complaisant avec ses joueurs. Sûr à 100%. Ce qu'il dit au public, ça, c'est une autre chose. Il a la prérogative de dire ce qu'il veut, soit à François Gagnon ou à Martin McGuire. Ça lui appartient. T'sais, lui a le privilège de la réponse. Les gars qui travaillent de l'autre côté, les gars, les filles, ont le devoir de la question. Donc, vous pouvez poser des questions qui amènent le débat ailleurs.
Bon. Oui.
Correct. Ça, c'est bien. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben écoute, ce qui se passe dans le concret, c'est très simple. C'est que l'entraîneur, Martin a tout à fait raison, il ne va pas sortir sur la place publique pour se servir des médias pour passer un message. Il n'a pas besoin de ça.
Il gagnerait quoi à déchirer sa chemise?
Exactement. Premièrement, à cause de la qualité de son équipe, il en est très conscient, mais surtout, et avant tout, la relation que tu veux développer avec ses joueurs.
Je vous relance, les gars, après votre première réponse à cet enjeu. Il y a une relation avec les amateurs également. Martin dit toujours, plaide que quand il communique avec les médias, il parle aux amateurs. Y a-t-il un danger que les amateurs pensent qu'on les dupe si on leur dit pas ce qui est le reflet de la réalité? Parce que, comme je le dis souvent, c'est du hockey, là. C'est pas de l'exploration spatiale. Le monde les voit, les matchs.
Tu sais, Mario, une fois, là, il y a pas tellement longtemps... Il n'y a pas tellement longtemps, là, sur une situation, j'ai posé une question à Martin Saint-Louis, là, qui était comme directe puis évidente. Puis c'était pas une question très positive, là. C'était pas une question qui soulevait un élément positif. Puis sa réponse, ça a été, t'as une très bonne question, puis tu connais la réponse, puis je répondrai pas. Alors, c'est je pense que consciemment, il choisit de répondre, puis des fois il va répondre, mais vous avez remarqué que il s'est fabriqué des phrases bien à lui. Tu dois prendre ce que la game te donne, puis des trucs comme ça.
Je le sais pas.
Ça, c'est ce que Martin a développé dans un marché comme Montréal pour pas en dire trop, Puis pour pas justement déclencher des controverses puis des trucs qu'il veut pas avoir autour de son équipe. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec Danny parce que, et je me rappellerai toujours la phrase de Cole Caulfield il y a environ 3 semaines quand on parlait des de la passion des entraîneurs et que je demandais à Cole si Martin Saint-Louis avait toujours autant de passion, de feu en lui qu'il en avait au début. Puis la réponse de Cole Caulfield, moins son sourire qu'on lui connaît habituellement, là,
oui.
Ça a été « Oh que oui! » et à tous les jours. Alors, moi, je me range derrière ce que Danny vient de dire. Les vraies affaires, ils se disent à l'interne, ils se disent entre les entraîneurs, ils se disent entre les dirigeants aussi. Moi, je suis convaincu que Martin n'a pas la langue de bois quand il est en réunion avec ses patrons. Évidemment, il y a une notion de respect qui est bien importante, là, mais c'est le choix qu'il a fait dans le contexte où il coach à Montréal, puis tant qu'il va coacher à Montréal, on va être obligé de vivre avec ça. Mais attention, quand cette équipe-là va être à maturité, puis qu'elle ne performera pas, il n'est pas dit que certains soirs, ça ne tranchera pas un peu.
Ouais, non, mais je vais répondre à ça justement. La deuxième portion de l'équation qui est la plus importante pour moi, c'est celle que tu as initiée tantôt en disant, OK, bon là, je faisais référence à l'article de François. Bon, mettons, est-ce qu'on fait preuve de complaisance? Bon, là, on a répondu à cette question-là en disant non. Le Canadien, Martin Saint-Louis, ne fait pas preuve de complaisance auprès de ses joueurs. Alors, publiquement, il ne va pas envoyer un de ses joueurs en dessous de l'autobus. Mais où je te rejoins, Mario, c'est que à un moment donné, il faut faire très attention quand la ligne devient très, très fine, au moment où tu veux un peu désamorcer quelque chose, mais que là, tu vas trop loin. Tu sais,
oui,
en disant,
oui.
Ah, écoute, oui. On aurait pu gagner ce match-là. On a, tu sais, je peux
on banalise quasiment, là.
Ben, c'est ça. Tu sais, tu peux pas dire, tu sais, à un moment donné, bon, ben là, on fait trop d'erreurs de gestion de rondelles. Ben, il faut que tu le dises. Tu sais, si tu penses que tu peux pas le dire comme ça, il faut que tu reviennes à des phrases, comme Martin disait, peut-être que des phrases passent partout, mais tu peux pas transformer une performance ordinaire en bonne performance. Ça, c'est comme contre les Pingouins, l'équipe n'était pas engagée. Moi, j'ai pas senti. Ils ont eu une bonne première période. Il y avait du tempo dans leur jeu. Puis à mesure que le match a avancé, bon, ben, c'est un peu toujours la même chose. Il arrive des affaires, puis ça nuit à l'équipe. Et là, rendu là, il faut que ce soit... Sans aller dans les détails pour pointer du doigt des joueurs, je pense qu'il y a une ligne qui est très mince, puis ça, il faut y faire attention, oui.
Mario et Danny, les gars, là, honnêtement, il manque un bon trio au complet dans cette équipe-là. T'sais, il manque un bon trio solide. Là.
Mais moi, c'est pas ça l'enjeu, Martin. C'est pas ça l'enjeu. C'est la relation avec les amateurs, si tu me permets. T'sais, c'est comme, on parle de vérité, on parle d'honnêteté, qu'on se dit les vraies affaires, puis on parle de bruit à l'extérieur. T'sais.
Oui, mais Mario, l'honnêteté, là, les vraies affaires, là, si l'entraîneur disait tout le temps les vraies affaires, là, faudrait qu'il dise, on a juste un trio qui marque, parce qu'on n'a pas assez de talent. Il nous manque au moins un trio et demi dans cette équipe-là. Puis tant qu'on n'aura pas ce trio et demi-là de meilleurs joueurs que ce qu'on a là, on va ressembler à ça. Ben, imagine une réponse comme ça.
Ben, je comprends ce que Marie, tu veux dire. Mais vas-y, Danny.
Moi, je reprends balle au bon, mais tu sais, Martin, en même temps, là, tu fais appel à la notion de talent. Moi, je fais appel à la notion d'effort, puis d'un match qui était âprement disputé, puis que les Canadiens n'ont pas gagné. Mais là, on parle de deux affaires différentes. On est tous d'accord que le Canadien, actuellement, là, tout le monde joue trop haut dans l'alignement. Ça fait que c'est sûr que ça fait qu'ils ont des erreurs, etc.
C'est ce que je dis,
mon point, attends, Martin, mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que, une fois, ça, c'est une chose, mais quand l'effort n'est pas au rendez-vous, s'il y a des choses que l'entraîneur, tu sais, par rapport à la qualité du jeu, de l'effort, qui n'a rien à voir avec le talent, tu peux pas ignorer ça. Puis des fois, je trouve que là, des fois, c'est un peu ce bout-là.
On arrondit.
On arrondit. Moi, j'aimerais des fois que Martin nous dise que, tu sais quoi, on a perdu trop de batailles sur le bord des bandes. On n'a pas été à s'engager physiquement. C'est quelque chose, nous, avec le genre d'équipe qu'on a, on peut pas se permettre ça.
Et moi, je trouve que c'est très important, si tu me permets de rebondir, Danny et Martin, parce que la relation avec les amateurs, là, on peut bien la banaliser, mais c'est plus que des payeux de tickets, les amateurs. C'est eux autres aussi qui maintiennent une ambiance relativement positive et saine autour de l'équipe, en autant qu'ils se sentent dans le coup et qu'ils sentent que, tu sais, qu'ils se font pas aligner sur un chemin qui est pas celui de la vérité, sans que, et là, je vous rejoins, moi, le premier, c'est ça que je réponds aux gens, tu sais, il y a pas personne qui souhaite qu'ils nous fassent un show de boucan à chaque deux défaites, puis qui rappe la moitié de l'équipe. Mais moi, et tu sais, Martin, je te relance ta balle là-dessus. Moi, je pense que c'est important, si, tu sais, Gorton plaide la patience, mais la patience va venir avec une confiance qui demeure, qu'on entretient avec les amateurs. C'est sûr que c'est le club en premier, ouais. Mais les amateurs, c'est pas des touristes là-dedans.
Non, non, mais personne qui prend les amateurs pour des touristes, là. Mais regardez-les à cette équipe-là, là, honnêtement, là. Regardez-les comme il faut.
C'est pas ça l'enjeu.
Parce qu'ils pourraient jouer comme la Lettonie quand ils jouent contre le Canada, Martin. Ils jouent la trappe. Tu comprends ce que je veux dire par rapport à la notion d'effort que Danny souligne? Je comprends que c'est un calendrier de 82 matchs, mais l'effort, là, ça n'a rien à voir avec le développement par progression.
Mario, l'effort est là la plupart du temps. Tu sais, là, Joel Armia, il manque pas d'effort.
C'est pas lui le problème.
Bon, puis Mike Matheson, quand il fait une bourde, il manque pas d'effort, Mike Matheson. Michael Pezzetta, des fois, on voudrait qu'il soit plus combatif, mais même s'il était plus combatif, il serait tout le temps assis dans la boîte de punition. Même s'il mettait des efforts, ce serait pas ben mieux que ce que c'est là. C'est là que je veux en venir. Tu sais, c'est moi, en tout cas, honnêtement, là, j'ai pas vu souvent un manque d'effort dans cette équipe-là. Je vois des joueurs qui jouent pas très bien, je vois des joueurs qui prennent pas des bonnes décisions, je vois des joueurs sous pression qui ont pas ce qu'il faut pour prendre la pression qui vient avec leur minute, puis là, ils font des bourdes. Mais l'effort, c'est arrivé une couple de fois. La combativité, c'est arrivé une couple de fois, mais quand c'est arrivé, il y avait toujours une petite phrase comme « on a perdu nos batailles ». Puis je me souviens qu'une couple de fois, quand le Canadien s'est fait rosser par manque d'effort, Martin Saint-Louis l'a dit, peut-être pas d'un mot qu'on aimerait qu'il dise, mais il l'a dit. Mais honnêtement, là, les gars, je pense que cette équipe-là, là, même si tu tapais dessus, tu n'obtiendrais pas grand-chose de plus.
Non, monsieur, je te rejoins à 100%, mais on ne parle pas de taper dessus. Moi, ça, c'est la première portion de la réponse. Il ne faut pas s'éloigner du débat de fond. Le débat de fond, c'est lorsque Martin s'adresse à la presse, est-ce que c'est les mots qu'il utilise, est-ce que ce qu'il mentionne, ça garde le public à la bonne place, tu sais, dans le sens, parce
exactement.
Qu'il parle au public, dans le fond, quand il parle, c'est juste ça, là, parce que on le sait que l'équipe est pas assez bonne, on le sait que Martin Saint-Louis, il fait tous les efforts pour faire travailler son équipe, on le sait que c'est 82 matchs, qu'il y a des soirs que ça marchera pas comme c'est supposé marcher, mais c'est comment il présente au public, c'est juste de ça qu'on parle, on n'est pas en train de dire que le coach fait pas sa job, tout ce qu'on est en train de mettre en perspective, c'est comment il le présente. Parce que ça, il y a comme une relation avec le public. Puis moi, je trouve que, mettons, 90% du temps, c'est correct. Mais il y a des fois où il y a des phases de jeu où je sais qu'il fait volontairement d'essayer de banaliser, de pas trop monter les attentes, parce qu'il voit bien l'équipe qu'il a sous la main. Mais ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a, messieurs, c'est que la ligne est tellement fine, puis ce qu'on est en train de demander à Martin Saint-Louis, c'est de marcher sur un fil de fer. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas évident. Là.
Non, c'est lui qui est au front. Et les gars, un autre élément de discussion avant qu'on se laisse, parce que c'est vraiment intéressant, sur la séparation des rôles. Je regardais une discussion l'autre soir en avant-match de Winnipeg-Vancouver entre Rick Tocchet et Rick Bowness, deux entraîneurs d'expérience. Mmh. Puis on leur demandait quelle était leur relation avec le DG, voir s'il y avait un input dans le choix des joueurs, etc. Bowness dit non, moi je me mêle pas de ça. Puis Tocchet dit oui, moi je me mêle de ça, puis je veux me mêler de ça, puis je veux savoir savoir quel genre de joueur on recherche, qu'est-ce qui fait pas notre affaire. Quand vient le temps, juste à titre d'exemple, de commenter l'arrivée de White et le retrait de Gignac, Martin établit une séparation des rôles, ça c'est la job de Kent puis des Gants-Hauts, moi je m'occupe de mon club. Pensez-vous que Martin est plus du type Rick Tocchet ou Rick Bowness? Danny?
Ben, moi, je pense qu'il est plus Rick Tocchet parce que il a une relation, c'est une relation privilégiée qu'il a avec Kent Hughes. Mais ça, ça veut pas dire qu'il dit à quoi faire au directeur général. Moi, je suis convaincu que le directeur général écoute et qu'il prend ses décisions tout seul.
C'est ça. Intéressant, Martin.
Là-dedans aussi, Mario, il y a une ligne à pas franchir, messieurs. Puis moi, je me souviens qu'il y a quelques années, nous étions à Tampa Bay la veille d'un match contre le Canadien. Puis ça, c'était l'époque moins glorieuse du Lightning au niveau de ses gardiens de but. Il n'y avait pas de Vasilevski dans ce temps-là. On l'avait pas découvert. Puis on l'avait peut-être même pas repêché. Il y avait Dwayne Rollinson qui était un des gardiens de but. Il était en fin de carrière. Puis on jouait à la chaise musicale. Puis il y avait des gardiens qui se promenaient entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Puis Guy Boucher, un peu exaspéré là sur une couple de questions, finit par lâcher une phrase qui ressemble, ben trouvez-moi un gardien de but qui a du sens, puis on va gagner des matchs. Là, ça ressemble presque à ça, la réponse de Guy.
Oui.
Puis quelques semaines plus tard, Guy a perdu son emploi. Tu sais, c'est comme un entraîneur qui s'aventure à dire dans un point de presse, ben je sais plus quoi le dire pour qu'il réponde. Ben là, ça, ces déclarations, habituellement, c'est tes dernières ou tes avant-dernières. Mmh. Parce que quand le directeur général entend ces affaires-là, il dit OK, je vais trouver quelqu'un qui est capable de trouver des réponses puis qui est capable d'obtenir des réponses de la part des joueurs. C'est pour ça que s'aventurer là-dedans puis s'aventurer à dire ben je m'attendais pas mal là, quand je lui pose la question entre Gignac et puis ouais, je m'attendais pas mal à cette réponse-là. Mais visiblement Martin Saint-Louis s'en va pas là pour dire ben moi je préférais un plutôt que l'autre puis tu sais c'est clair que c'est peut-être plus sage, parfois, de laisser ces affaires-là dans le cours de ton directeur général.
Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas son mot à dire dans tout ça. En conclusion,
non,
Danny?
Non, absolument.
En conclusion, mais moi, je veux dire une chose, c'est un entraîneur professionnel qui me l'avait dit à l'époque, puis dans ce temps-là, je coachais encore, puis tu sais, c'est un conseil, tu sais, je demande des conseils des fois, puis le gars, il m'avait dit, écoute, toi, tu es payé pour trouver des solutions. À la minute où ton directeur général va penser que tu n'es plus capable d'avoir de solutions, puis tu commences à demander des joueurs au lieu de trouver des solutions, c'est toi qui vas. Il ne changera pas le joueur, c'est toi qui vas changer.
Tu joues avec les poignées de ta tombe.
Ben, exactement. Tu es là pour trouver des solutions, pour trouver des joueurs.
Et puis, messieurs, il y a une histoire qui, pour moi, évoque tellement ce qu'on est en train de parler. Là. Je me souviendrai tout le temps lorsque José Théodore a été échangé par le Canadien de Montréal. Je pense que Guy Carbonneau était pas bonne humeur beaucoup parce que avant de faire cette transaction-là, Bob Gainey avait pas beaucoup parlé à Guy Carbonneau sur la possibilité d'échanger José Théodore. Puis ça avait ébranlé le coach un peu cet échange-là parce que Bob Gainey avait des convictions profondes à l'effet que José Théodore pouvait pas rester à Montréal puis pouvait pas rester avec le Canadien.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ça fait toujours quelque chose quand on apprend la nouvelle du décès de quelqu'un qui a été près de nous, même si c'était pas physiquement près, mais quand tu as joué pour le Canadien, que tu étais un des membres d'une dynastie de la deuxième moitié des années 50, que tu as contribué à 7 conquêtes de la Coupe Stanley, que ton nom est familier, évidemment, dans la mémoire de tout le monde. Eh bien, Jean-Guy Talbot, un membre de la grande famille du Canadien qui est décédé hier à l'âge de 91 ans, et avec nous ce soir, ben, une légende de l'histoire tricolore, nul autre que l'ancien Roadrunner numéro 12, Yvan Cournoyer, qui a été coéquipier Jean-Guy pendant quelques saisons. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très, très bien, Yvan. Alors, je pense que dans l'entourage des Canadiens, on le savait qu'il était malade. Je pense pas que ça a été un effet de surprise, mais quel souvenir remonte en tête quand on pense à Jean-Guy Talbot pour un ancien Canadien des années 50 et 60?
C'est toujours une surprise quand on sait qu'il est malade, mais que quand il décède, c'est une autre affaire.
Oui, hein, ça donne un coup pareil?
Ça donne un coup. Vous me revenez à Jean Béliveau quand il est décédé. Il était malade depuis longtemps. Mais quand j'ai su qu'il était décédé, ça fait quelque chose.
Comment t'as encaissé la nouvelle par rapport à Jean-Guy Yvan? Avec qui t'as joué dans les années 60?
Jean-Guy, d'abord, c'est un homme qui aimait avoir du fun. C'est un joueur de tour. Et puis, il était pour un entraîneur, c'est un joueur parfait parce que il n'avait pas besoin d'y parler pour qu'il puisse jouer sa game, sa partie. Alors, il était vraiment simple. Et puis, j'ai gagné deux coupes cette année avec lui. Puis, il nous a montré comment gagner avec tout le restant de ses coéquipiers.
Quand tu arrives avec les Canadiens en 63-64, Yvan, et que tu rencontres plusieurs légendes de cette équipe-là, dont Jean-Guy, est-ce que Jean-Guy pouvait être qualifié d'un gars qui faisait le lien entre les vétérans et les plus jeunes?
Vraiment, c'est un gars qui aimait la vie premièrement, puis il était sympathique. Et puis, j'ai eu l'occasion de jouer contre Guy. J'ai gagné deux Coupes Stanley, puis il jouait à Saint-Louis, je crois. Alors, oui. J'ai gagné deux Coupes Stanley, mais il nous avait dit qu'il nous avait laissé gagner.
Ah oui, il avait de la misère à se mettre dans la tête qu'il fallait essayer de battre le Canadien, Yvan.
Peut-être, oui. C'était un joueur vraiment exceptionnel. Et il était tout le temps joyeux, puis c'était un bon coéquipier à avoir.
Quel style de joueur était-il? Parce que nous sommes nombreux à ne l'avoir vu jouer que dans quelques films d'archives.
Il était offensif. Il contrôlait bien la rondelle, et puis il avait un bon coup de patin. Alors, moi, j'ai été chanceux parce que jouer pour Canadien Junior, on jouait au Forum.
Oui.
Alors, on avait la chance, peut-être, après notre pratique, de regarder la pratique du Canadien. Et alors, on a pu peut-être se familiariser avec les joueurs un peu. Alors, c'est pour ça que quand je suis arrivé avec Canadien, j'avais quoi, 19 ans? Alors, ma première partie, c'était à Détroit. Et j'ai été avec Gilles Tremblay pour la première partie à Détroit. Alors, ça a été plus facile, peut-être.
Ben, j'imagine que ça a été plus facile. Et c'est un joueur de tour, un bon vivant. Mais il me semble, Yvan Cournoyer, que ça semblait comme la norme. Jouer pour le Canadien, on dirait qu'il y en avait beaucoup de gens qui étaient des bons vivants, qui étaient des bonnes personnes pour avoir côtoyé beaucoup d'anciens par la suite. Une joie de vivre qui animait tout ce monde-là. Est-ce que je me trompe?
Il y avait John Ferguson, qui était dur, mais il était lui aussi, il aimait ça jouer des tours.
Ah oui?
Puis ben on était beaucoup ensemble, alors en voyageant en train, hein. Alors ça nous donnait la chance de connaître notre coéquipier davantage. Et on connaissait toute la famille aussi. Alors on jouait plusieurs années ensemble. Alors c'est pour ça que peut-être après toutes ces années, on se connaissait beaucoup, on voyageait en train, on passait des journées ensemble. Alors c'est pas comme aujourd'hui, tu voyages en avion puis on s'en va chez nous après, mais nous autres, on était souvent ensemble.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de fraterniser après vos carrières respectives, Jean-Guy et toi, Yvan?
Oui, ben on se parlait. C'est pas parce que lui, il a été co-entraîneur avec Rangers après, puis il y a beaucoup d'autres principales ouvrages qu'il avait. Il a été coach même à New York, je crois. Alors, on avait moins la chance de se rencontrer, mais avec le tournoi de golf des anciens Canadiens, il était toujours là, puis on avait la chance de communiquer ensemble.
Ouais, c'était un chic, un bon monsieur, comme on dit, un chic type, Jean-Guy Talbot. Yvan Cournoyer, qui est avec nous ce soir pour honorer la mémoire de son ancien coéquipier. Yvan, 80 ans maintenant, toujours en bonne santé physique, en bonne forme dans ton cas?
Oui, amené jusqu'à date, ça va bien, on fait notre tapis roulant, puis à 80, je me dis qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait peut-être Jean-Guy Talbot. Je m'aperçois que quand on vieillit, les gens sont pas mal, ils n'ont pas vu Jean-Guy comme vous avez dit avant. Alors, c'est peut-être un peu plus dur de l'apprécier comme qu'il était. Mais moi, avec après avoir joué avec, alors je l'apprécie beaucoup.
Et on est tellement privilégié de pouvoir s'entretenir avec toi pour que tu nous parles de Jean-Guy, justement, pour les générations qui l'ont pas vu ou qui ont peut-être oublié. Il y a eu la dynastie de la fin des années 50, il y a eu la dynastie de la fin des années 70, dont tu as fait partie, mais entre les deux, il y a eu les années 60, puis il y a eu des belles années, mais le Canadien des années 60, avec Jean-Guy notamment, c'était quoi ces années-là, grosso modo, Yvan Cournoyer?
Ben, j'ai pas eu la chance, j'étais jeune pas mal, alors j'ai pas eu la chance de voir Canadien dans ces années-là. Je venais de Drummondville. Alors les télévisions étaient en noir et blanc, puis étaient pas mal plus dur à les voir. Alors quand j'ai eu la chance de parler à eux autres, Jean-Guy il était là pour les cinq années d'affilée pour qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis dans mes deux premières années que j'ai gagné la Coupe Stanley avec Henri. Avec Jean-Guy, je veux dire. Alors ça commence bien, oui. Et puis après ça, il a été échangé, je pense, à Saint-Louis.
Ouais. Moi, le souvenir que j'ai toujours en tête, c'est Yvan, les pieds, les patins dans les airs au milieu de la glace. Je pense que c'était fait faucher par un adversaire. Et c'était une pirouette mémorable. J'ai eu un poster de ça dans ma chambre pendant de nombreuses années. J'imagine que tu t'en souviens mieux que quiconque. C'est toi qui
le vivais. Monsieur Brodeur, qui était photographe dans ce temps-là. Il y avait pas les caméras qu'ils ont aujourd'hui avec c'est comme quasiment une vue qu'ils ont aujourd'hui. Ils peuvent capter la séquence, mais lui, c'était automatique. Il dit, c'est la seule photo dans ma carrière que j'ai pu prendre avec un joueur droit comme ça dans les heures.
C'est un moment mémorable. Jean-Guy Talbot a été un homme mémorable pour ceux qui l'ont bien connu. Yvan Cournoyer, merci. C'est un privilège d'avoir pu en parler avec toi ce soir. Merci, Yvan.
Ça me fait plaisir, j'aurais parlé.
Merci beaucoup. Au revoir. Yvan Cournoyer, la légende, l'ancien numéro 12, le Roadrunner, un des joueurs les plus excitants de l'histoire du Canadien de Montréal.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Et que ça passe donc vite. 30 ans déjà, le 16 février 1994, Jean-Luc Brassard est en finale des bosses à Lillehammer aux Jeux Olympiques. Il est le dernier à s'élancer, à sa portée, une médaille. Il espère l'or, bien sûr. On connaît la suite. 30 ans plus tard, Jean-Luc est avec nous en studio 98.5. Bien le bonsoir, Jean-Luc Brassard.
Salut, Mario.
Comment ça va? Écoute, je décris ce moment-là, puis j'ai le frisson juste à y repenser. Fait que toi qui le vivais ce moment-là, là, qu'est-ce que ça représentait dans ta vie, ces quelques secondes qui ont précédé ton entrée dans la gloire olympique, en quelque sorte?
Ben, c'est intense, évidemment. J'ai eu l'occasion de le décrire un peu dans les derniers jours parce qu'on en a parlé beaucoup. Mais ce qui m'a toujours le plus surpris de cette performance-là, c'est que, tu sais, à l'époque, 1994, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de médias sociaux. Alors, il n'y a pas vraiment moyen de communiquer. Le moyen le plus actuel, c'est peut-être des fax. Et éventuellement, après ma performance, j'ai même reçu un télégramme de félicitations. Alors, tu sais, 1994, c'est 30 ans, mais il y a 30 ans, on était ailleurs. Alors, le fait d'être un peu déconnecté, c'est-à-dire d'être uniquement dans le village, j'étais presque seul, j'avais un coéquipier, mais lui, il y avait une conjointe qui travaillait pour la BBC, alors je ne voyais presque pas. Donc, ce moment-là de me retrouver seul dans le village m'a permis vraiment de mettre tous les à côté, les distractions de côté et de me concentrer uniquement sur cette performance-là. Alors, c'est énervant parce que, tu sais, techniquement, la performance olympique, peu importe le sport, ça reste la même chose qu'une Coupe du Monde ou un championnat du monde. La difficulté, c'est que ça revient aux 4 ans. Et pour en ajouter une beurrée, c'est que les réseaux de télévision sont là. Et à l'époque, tu sais, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de diffuseur satellitaire. C'est que la télé classique qui va faire valoir la performance et tous les diffuseurs sont sur place. T'sais. C'est quelque chose que nous, les skieurs, on n'était vraiment pas habitués. T'sais, dans les Coupes du Monde, il y a 200-300 personnes, mais c'est tout. Puis on disparaît à l'entour du parcours. Donc,
Ça t'avait surpris qu'il y ait autant de monde également sur place comme spectateur?
C'est extraordinaire, mais ces jeux-là avaient vraiment quelque chose de magique. Hein? Puis tous ceux qui les ont écoutés s'en rappellent. Il y avait une atmosphère bon enfant. On était loin du centre commercial. C'était vraiment le concept chalet de montagne, des petits toits en pente. Et l'ironie avait fait que la nature avait donné presque 3 pieds de neige quelques jours avant le début des Jeux. Donc, c'était la féerie de la montagne et des Jeux d'hiver comme une carte postale. et les Norvégiens le rendaient bien. C'est vraiment impressionnant. Il y a pas grand-chose. Lillehammer, c'est un petit village. On y retournera aujourd'hui. C'est quasi désert. C'est vraiment, c'est spécial, là. Alors, c'est un peu comme arriver à Knowlton ou à Lac-Brome mardi midi, là. Il y a pas grand-chose. Mais pendant les Jeux olympiques, les trains n'arrêtaient pas de circuler. Et à partir de la gare de Lillehammer, les organisateurs ouvert des espèces de grands trottoirs qui n'étaient pas des trottoirs. Ça montait dans la montagne, c'était dans des champs, il y avait tassé la neige. Et les gens sortaient du train, puis les grands-parents, les parents, les petits-enfants sur des trains sauvages montaient dans la montagne. C'était des couloirs. Ça ressemblait un peu à l'époque quand on quittait les expos. Là, il y avait une foule de gens qui se dirigeaient vers les événements. Et tout le monde était bon enfant. Là, les Norvégiens sont mariés à l'hiver. C'est juste un exemple. L'épreuve reine là-bas, c'était le 50 km de ski de fond. Et les Norvégiens sont complètement fous de cette épreuve. Alors, la nuit précédente, vers 5h du matin, il y a des bénévoles qui se promenaient dans la forêt pour éteindre les feux parce qu'ils évaluaient qu'il y avait environ 10 000 personnes qui avaient couché dans la forêt pour être les mieux placées pour voir l'épreuve reine. Wow. Alors, cette magie-là, on la vivait lorsqu'on était athlète parce qu'on voyait des gens qui étaient vraiment passionnés. Et cette journée-là de la course de bosse, mais il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu, tu sais, dans une épreuve, des fois, si tout le monde va bien, c'est le fun, c'est beau, mais c'était des crashs, c'était des sorties de piste, des descentes spectaculaires, ça fait partie du spectacle aussi. Et ça, la foule qui s'était déplacée, on a vraiment eu plein les yeux. Et de plus, moi, je ne le savais pas à ce moment-là parce que l'avant-veille, il y avait 50 hommes et je pense 35 femmes. Et les 16 meilleurs des deux catégories, des deux genres, faisaient l'épreuve finale du lendemain. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que les femmes, bon, évidemment, descendant vers nous autres, mais c'était une Norvégienne qui avait gagné l'épreuve de bosse. Alors, déjà, le public était dithyrambique, là, parce que...
Ben oui, l'occasion de célébrer l'une des leurs, là.
Exactement. Puis nous, ben, même si on était peut-être loin en préparation, on était dans des petits chalets en haut, des petites huttes, là, vraiment des cabanons, là. C'était dans le sens le plus spartiate. Il y avait des murs de bois, un banc puis une chaise. Et on attendait quand même le bruit de la foule. On entendait le brouhaha, les cris d'encouragement. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Les entraîneurs nous avaient avisé de ne pas utiliser la radio pour demander où on est rendu dans le déroulement, parce qu'ils disaient peut-être que nous, on est en train justement de préparer une des compétitrices canadiennes, puis on veut pas que la radio grisille on veut rester focusé sur ce qu'on a à faire. Alors, chaque fois que la radio grisillait, dans ce silence-là du cabanon, il y avait aucun bruit. Il y avait mon coéquipier John Smart qui était assis sur la chaise. Moi, j'ai pris le banc quand je suis arrivé. Et à chaque fois que ça grisillait, on sautait 10 pieds de haut tellement qu'on était nerveux. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé toute l'espèce de pression olympique. Tu sais, quand on dit cet athlète fait preuve d'un calme olympien ou il était d'un calme olympien, c'est vraiment n'importe quoi. On est vraiment paralysé par le stress, nous aussi, même si on est préparé parce que...
Tu l'avais jamais vécu à cette intensité-là?
Jamais. Puis, tu sais, tu veux pas manquer ton coup. C'est dur de garder l'esprit calme, de rester zen, vraiment de se concentrer, de ralentir le rythme cardiaque. Puis, tu sais, la nervosité, c'est vraiment pas de shaker. Tu sais, il y a rien qui paraît. Physiquement, il y a rien qui paraît, mais intérieurement, ça déchire. C'est vraiment... Ça me faisait mal là, à l'intérieur. C'était vraiment pénible.
C'était physique?
Non, vraiment comme émotion. Ça paraît pas, c'est pas extériorisé, mais à l'intérieur, t'as comme des coups de poing dans le ventre. Là, c'est spécial.
Alors, est-ce que c'est la peur d'échouer ou la possibilité d'échouer?
Ben moi, tu vois, je l'ai rencontré à maintes reprises. À un moment donné, j'avais décidé, même si j'étais le dernier à partir, donc de clôturer l'événement, qu'à un moment donné, le stress s'est tellement emparé de moi que j'avais décidé de pas faire la course, de prendre mes sacs puis de partir au village puis d'abandonner, de prétendre de feindre une blessure parce que j'étais plus capable d'assumer ce stress là, tu sais.
À très peu de temps de ton moment de départ, 15
minutes avant de partir,
15 minutes avant.
C'est impressionnant parce que tu vois nos petites cabanes que je te parlais étaient un peu plus haut. Lillehammer où on compétitionnait, c'était pas un centre de ski, c'était une piste de ski, c'est tout. C'était coupé dans le bois avec une arbalète à côté pour monter. Et quand je suis sorti de ma petite cabane à un moment donné, c'est drôle parce que dans la cabane, toute la semaine, on s'est entraîné au soleil. Et quand j'étais dans la cabane, il y a eu une espèce de gros nuage de brouillard qui s'est mis sur la montagne. Et à un moment donné, il venait le temps de sortir. Alors, en sortant, je me suis mis à sauter sur place, à essayer de m'échauffer. Je montais la pente un peu comme un skieur en pas de patin avec mes skis alpins, simplement pour réactiver mon corps, réactiver les muscles, les réchauffer. Et quand je suis arrivé à portée de vue de l'aire de préparation, qui est un grand rectangle plat derrière la piste de bosse, en fait, au moment où il y a la rupture pour aller dans la pente de bosse, il y a une petite tente et derrière, il y a l'aire de préparation. Et là, sont les 16 finalistes masculins avec les entraîneurs, il y a quelques physiothérapeutes, il y a des gens des médias, des NBC là, qui sont télédiffuseurs, les gens de diffuseurs olympiques aussi qui sont sur place. Et il règne un silence qui est vraiment impressionnant, mais c'est vraiment une atmosphère en tout respect. Tu sais, oublie l'idée là qu'un gars va arriver avec son tournevis pour essayer de défaire les fixations de l'autre. Ça n'existe pas. On est tous des amis d'abord et avant tout. Tu sais, on sait que
vous promenez à travers le monde ensemble, là, en quelque sorte, même les adversaires, les gens du même pays ou des autres pays.
Exactement. On se respecte, on fait attention, on essaie toujours de pas déranger personne. Moi, des fois, je me fermais les yeux pour essayer de visualiser ma descente. Quand je les ouvrais, j'avais vraiment la grosse lentille là, de près de 6 pouces de large de NBC qui me filmait, mais vraiment à un pied de la face. Mais il n'y a jamais de... Il y a un respect monumental. Tu fais pas « Hey, va-t'en de là, tu me déranges. » Grâce à lui et sa caméra, les gens peuvent voir ma performance. Et à l'inverse, ben moi, je lui donne la matière. Alors, j'ai juste fermé mes yeux, puis je me suis tassé, puis le caméraman s'en va ailleurs. Il y a vraiment un respect mutuel là, entre tout le monde. Et progressivement, ben on voit les gens partir. Puis ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que le 16e, le premier à partir, c'est un Australien, il s'appelle Nick Cleaver. Puis dans mon sport, c'est drôle parce que c'était tous des personnages. Tu sais, Sergei Soupletchov, qui était de l'adversaire direct pour moi, un Russe, mais c'était comme Drago dans Rocky IV. Gros Piron, c'est comme Astérix. Nick Cleaver, c'est un surfer, tu sais, il est Joe Cool.
C'est toi qui...
Non, ils sont vraiment, quand j'y pense, là,
c'était des personnages.
Et Nick Cleaver, Joe Cool, jamais de problème. Il surfe des grosses vagues, peur de rien. Je le voyais s'apprêter à être le premier à partir. Et soudainement, là, il était blanc comme un drap. Blanc comme un drap, blanc d'épouvante. Puis je me rappelle d'avoir eu le flash en me disant « Wow! » Tu sais, là, c'est sérieux, puis ça paraît. Tu sais, c'est vraiment énervant. Et tranquillement, les gens descendent. Puis là, on attendait. Puis moi, j'allais pas voir les autres descendre, mais on entendait la réaction de la foule. Et on pouvait savoir s'ils faisaient des bonnes descentes ou des mauvaises. Mais là, ça descendait, un après l'autre. Tu sais, tranquillement, cette de préparation se vide et il y a de moins en moins de monde. Et là, la tension se construit davantage. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, vraiment, l'idée que tu peux couper la tension au couteau,
Les résultats s'améliorent jusqu'à temps qu'on attende ton score, ta performance.
Ben oui, parce que c'est comme, disons, une finale de patinage artistique. Là. Les meilleurs vont passer à la fin. Mais tranquillement, et là, il y a Gros Piron qui fait beaucoup de bruit, qui est techniquement celui qui a gagné la première et la seule épreuve olympique jusqu'à maintenant, Albertville. Deux années auparavant, il y avait un bris d'alternance entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Et par la suite, Soupletchov devait descendre. Et après ça, ben c'était moi qui étais le dernier à partir. Donc, je les voyais partir, mais c'était drôle parce que en plus des athlètes qui étaient des entraîneurs, qui étaient des personnages, les entraîneurs aussi étaient des personnages. Et quand Soupletchov est finalement arrivé dans le portillon de départ, ben lui, c'était vraiment comme Drago. Alors, épouvantablement, sans émotion, calme. Alors, il a pris le départ. Et il a fait une descente magistrale. Et son entraîneur, Zari, là, pour te donner une anecdote, là, il voyageait vraiment avec des bouteilles de vodka. Il y en avait des fois 14.
Un autre personnage.
Ouais, il prenait ses shots de vodka régulièrement. Il est mort depuis, regarde, mais en tout cas. Et une fois que Soupletchov a fini sa descente, Zari s'est retourné, il a regardé Gros Piron, puis il s'est mis à chanter une chanson russe en faisant aller ses bras, là, tout heureux comme ça se peut pas. Et il a quitté la tente de départ, puis il est parti, il a ramassé son sac à dos, il est descendu en bas. Et là, Gros Piron était pompé, là, il était énervé par rapport à ça. C'était vraiment comme Astérix qui prend la potion magique. Alors, il était dans le portillon de départ, claquait les skis, faisait du bruit, c'était épouvantable. Et son entraîneur à côté, qui était aussi volatile, se mettait à l'encourager, puis il criait « aïe, 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 aïe », et là, ça faisait du bruit. Et Gros Piron, quand il descendait, c'est un peu comme quand Wayne Gretzky marque un but. Alors, tu sais, Wayne Gretzky va pas se contenter de marquer un but. Il va traverser la patinoire, ça va être électrisant et il va faire un but. Gros Piron, c'est ça. Les gens le savaient, l'attendaient et sa descente était vraiment électrisante. Et quand ils ont annoncé son résultat, ben, je me suis sûrement bouché les oreilles pour pas l'entendre parce que Gros Piron venait d'avoir un record du monde avant. Je savais que Soupletchov venait d'avoir un record du monde. Je savais que Gros Piron s'en laisserait pas imposer parce que ce genre de compétiteurs-là, Gros Piron et Soupletchov, c'est des gens qui carburent à l'événement. Donc, plus c'est important, plus ils réussissent à canaliser l'émotion qui est véhiculée, de se l'approprier. Et tu sais que ces gars-là feront pas de pause, feront pas d'erreur en descendant. C'est vraiment Mahomes au quatrième quart ou en prolongation du Super Bowl. T'sais, il va se passer quelque chose. Tu sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. T'sais, Brady t'en même aussi. Alors,
et toi, tu te sens pas à leur hauteur de la manière dont tu les vois, peut-être plus grands et plus gros que nature. Et là, pendant que tout ça arrive, à quel moment toi tu dis non, moi je descends pas?
Ben ça s'est fait avant en fait, et c'est avant quand il y avait encore beaucoup de monde dans l'aire de préparation derrière. À un moment donné, ma pensée, mes émotions se sont littéralement emballées, se sont emportées, et c'était rendu impossible à gérer. Puis là, tu te mets, quand le cerveau se met à spinner comme ça, à déraper, là, à débarquer, faut vraiment que tu aies quelqu'un de confiance à côté de toi, puis il faut que tu le dises, faut pas que tu le gardes en dedans de toi parce que tu peux pas prétendre le t'es hors contrôle. Tu es vraiment en mouvement de panique là, imagine quelqu'un qui a jamais vu de neige de sa vie, il roule à 200 puis il est sur la glace. Alors, tu sais, là il va essayer de tourner le volant tout bord tout côté. C'est un peu ça que l'esprit fait. Et moi je me disais, qu'est-ce que les gens pensent à la maison? Qu'est-ce que j'y arriverai pas, c'est trop difficile, j'ai trop de pression, je suis pas dans mon état normal, j'ai pas l'entraînement nécessaire. Tu te mets à douter de tout. Puis par la suite, j'ai compris qu'en psychologie, souvent, quand tu espères quelque chose de très fort, tu travailles très fort pour quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose dans ton corps qui veut comme te saboter, t'empêcher d'acquérir cette chose-là que tu mérites parce que tu l'as travaillé. Mais on est
cherche une porte de sortie.
Tu sais, il veut toujours te mettre, te faire une jambette, t'empêcher de réaliser. Puis tu vas faire une audition super importante dans une business quelconque parce que tu as étudié là-dedans. Puis là, tu te mets à bafouer comme si tu n'avais jamais parlé de ta vie. Tu fais toutes sortes de gaffes, des faux pas. C'est un peu de même aussi. Avant ses grandes naissances. Et à ce moment-là, je me suis dit non. Moi, je n'accepte plus de me faire souffrir de la sorte parce que c'était vraiment douloureux. J'ai dit, c'est fini, je ramasse mon sac, je m'en vais, puis je vais aller vivre dans un chalet dans le bois des Laurentides.
T'as 21 ans, là.
Ben oui, puis tu sais, c'est jeune, 21 ans. On a le droit de voter, on est majeur aux États-Unis, mais pour supporter toute cette pression-là, puis là, je ne te parle pas de dire. J'avais vu des athlètes qui m'avaient dit ça par la suite, là, supporter, j'ai échoué, j'ai laissé le Canada tomber, des trucs de même. Tu peux pas représenter un pays parce que premièrement, tu les connais pas. Puis ensuite, c'est plein de sources de distraction de dire je vais représenter un pays. Et soudainement, le gars de l'Ontario, du BC, du Manitoba, tu le connais pas. T'sais. Au contraire, durant les grands événements, il faut que tu amènes ça à la plus simple consonance, qui est de faire une descente. Puis à un moment donné, moi, avant de quitter, ben c'est là que je pouvais pas partir sans dire à mon entraîneur. Et c'est là que j'étais allé voir.
Avant de quitter, c'est comme t'étais c'est fort, j'en reviens pas.
Puis quand l'entraîneur il a vu qu'il se passait pas, c'est drôle parce que j'avais deux entraîneurs, un entraîneur d'équipe et un entraîneur de boss. Et l'entraîneur d'équipe a dit à l'entraîneur de boss, va-t'en, tasse-toi. Je le voyais plus, ça me dérangeait pas. Simplement parce que l'entraîneur de boss était trop nerveux. Il était contagieux dans sa nervosité. Puis l'entraîneur d'équipe l'a spoté ça. Puis il a dit, si tu vas à côté, puis tu shakes de même, puis tu bafoues, tu vas le contaminer. Ça fait que reste à distance. Et c'est l'entraîneur d'équipe qui, lui, était plus calme. Puis je me suis toujours posé la question par la suite, est-ce que tu peux, même si t'es pas vraiment calme, le feindre, faire à semblant, et l'athlète va le percevoir s'il y a de la crédibilité, évidemment, puis ça va calmer les choses. Mais quand j'ai vu cet entraîneur-là d'équipe, j'ai dit, ben écoute, je savais pas comment le verbaliser, mais j'ai simplement dit, Pete, ce coup-là, j'ai peur, ça s'appelle Peter. Mais tu sais, c'était bien avant l'heure, disons, des hommes qui vont se confier. Là. T'es supposé être un athlète olympique, t'es supposé être un Robocop, t'es supposé jamais avoir peur.
1994.
Puis là, il faut que t'avoues que t'es pas au-dessus de la situation, là, t'es en train de crouler sous la situation. Puis je savais pas comment le dire vraiment. Là, ça a sorti, je l'ai verbalisé comme ça, mais j'ai dit j'ai peur. Puis dans le fond, c'était ça, je pense, que j'avais peur de quelque chose. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'échouer si près de la ligne d'arrivée. Puis c'est là qu'il m'a dit justement, il m'a posé cette question-là. Il m'a pas fait un grand discours à genre Hollywood. Là. Il m'a posé une question, il m'a dit pourquoi tu fais du ski? Et puis moi, spontanément, ça m'a tellement surpris que j'ai pas pris le temps de penser. Puis j'ai dit, mais je fais du ski parce que j'aime ça. Et il a pris un petit peu de temps, puis il a gardé un silence, puis il m'a dit, ben, amuse-toi. Comme je m'amusais quand j'ai appris à skier au Mont Olympia. Tu sais, comme je m'amusais quand je skiais avec mes amis. Quand tu penses pas à la performance, tu penses juste à t'amuser. Puis, tu sais, la beauté sportive, peu importe le sport, c'est que tu répètes tellement le mouvement souvent que ça devient une seconde nature. C'est pour ça, tous les volumes d'entraînement. Lancer une balle de baseball pour un lanceur professionnel, les yeux fermés, il va en mettre au marbre, tu sais. Parce qu'il y a toute la motion en tête, son corps obéit au doigt et à l'œil. T'as des rituels qui te mettent en position. Ça fait que, tu sais, le fameux joueur de tennis là, qui tape sa balle trois fois, tu dis, ah, pourquoi il fait ça? Mais quand il fait ça, le corps dit à son esprit, OK, il y a un service. Il dit pas, on va aller manger une patate frite. Là. Il dit, il y a un service qui s'en vient.
C'est un rituel.
Puis le corps va automatiquement développer le mouvement qui va faire un beau service. Alors, en ramenant ça à l'essentiel, au ski pour le plaisir, moi, j'avais pas besoin de me concentrer sur l'entité de la pente. Je sais comment skier les bosses. T'sais, je me concentrais sur deux segments de trois bosses, quatre bosses chaque, où il y avait plus de difficultés. Puis le reste, je me disais, je suis capable de skier, je vais le faire. Et c'est ça qui est hallucinant. Donc, il se passe, Zori qui se met à chanter sa chanson, Gros Piron qui se met à taper des skis, qui fait une descente de l'enfer. Je me bousse les oreilles pour pas entendre le résultat.
Tu bloques.
Et puis, je me ramasse dans une portion de départ. Mais c'est pour, tu sais, je peux comprendre les jeunes recrues.
Mais la parole t'a calmé, là, de Peter George.
Ça m'a permis de remettre les choses au bon endroit. Et là, j'ai pu
revenir.
Ben, immédiatement, comme ça, en claquant des doigts, tu sais. Et ça m'a permis de retrouver, non pas un calme de yo-yogi, là, mais un calme normal, une position normale de départ de Coupe du Monde. Parce que t'en as besoin du stress, là. Faut pas. Puis le stress, il est toujours présent. Mais un athlète, faut qu'il apprenne à l'apprivoiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec le stress? Si tu dis, ah, oh, merde, je suis nerveux, je suis stressé, c'est sûr que ça va aller mal. Mais si tu dis, all right, je suis stressé, j'en ai besoin pour tenir la fine ligne, ben là, à ce moment-là, tu joues le stress à ton avantage. C'est toujours une question d'attitude par rapport à ce qui t'est présenté. Les habiletés, là, au niveau international, il y a ça de différence entre le premier puis le vingtième.
C'est dans la tête que ça se passe énormément, comme tu
l'approches.
Avec le récit de tout ce que tu nous racontes dans les minutes qui précèdent, on a presque seconde par seconde. Et donc, au moment où c'est ton tour, la peur t'habite moins ou la chienne te quitte un peu, si tu me passes l'expression.
Oui, ouais, ben ouais, absolument, c'est parti. Là, je suis dans ma...
Là, t'es d'attaque?
Ben, je suis dans ma concentration habituelle de Coupe du Monde. Je suis dans mes repères. Je suis dans quelque chose que je connais. Je suis plus dans l'inconnu, tu sais. Puis ça, c'est important parce que imagine, ben, un exemple bien simple. Si tu vas coucher au chalet d'un ami, tu travailles dans la nuit, t'as envie. Ben là, tu sais, trouver la toilette, ça va être compliqué parce que t'es dans un environnement nouveau.
Ouais.
Bon, c'est un peu ça, mais en grande compétition, t'as pas le temps de trouver ça où les switches, les lumières, là. Faut que tu saches exactement où aller. Puis en retrouvant tes repères, ben là, à ce moment-là, tu t'épanouis, tu peux juste te concentrer sur ce que tu as à faire. Et finalement, je sais pas combien de temps il reste à l'entrevue, là, mais quand ça part...
Ben, t'sais, Jean-Luc, sais-tu quoi? Quand ça part, c'est ça qui arrive.
Jean-Luc Brossard qui, maintenant, s'élance. Très bon départ. Triple manœuvre, oui. Haute piste. Bien atterri. Belle technique ici. Bien rapide au niveau des bosses. Bon, il a l'air très confiant, très agressif. Jusqu'ici, aucune erreur.
Vas-y, Jean-Luc. Deuxième saut.
Très bien. Oui. Et maintenant, recherche de vitesse.
Il s'en vient.
Et
oui. Oui. Il le sait.
Il le sait.
24 secondes.
Il le sait.
Oui.
Le
premier médaillé d'or officiel du ski acrobatique canadien, 27,24 points contre 26,90 pour le russe Sergei Choupletsov. Quel moment, Jean-Luc Brossard, qui,
après avoir gagné le championnat du monde.
Et tous les gens qui sont ici sont derrière lui.
Gros Piron qui le félicite.
On a juste l'audio, Jean-Luc, mais t'es revenu 30 ans en arrière, hein, nécessairement. Ben,
vraiment, je l'ai pas oublié, cette descente-là. J'en ai oublié dans ma carrière des belles performances, mais je l'ai pas oublié parce qu'elle était difficile. Mais, tu sais, contrairement à ce qu'ils disent, les animateurs, quand je passe la ligne d'arrivée, évidemment, je suis vraiment content, j'ai le poing dans les airs. Puis là, ils disent, il le sait. Mais dans le fond, je savais pas du tout. J'étais vraiment content. Puis, je suis capable de dire maintenant que c'était pas uniquement, mais c'était que de la satisfaction personnelle. Parce que, dans le contexte, 10 minutes, 15 minutes avant, j'étais prêt à abandonner et là, je fais la descente de ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai croisé les lignes d'arrivée avec la satisfaction personnelle, peut-être que j'aurais pu arriver 7e parce que j'avais pas vu les descentes des autres. Mais je me disais, si j'ai à finir 7e, ben j'ai aucun regret parce que je pouvais pas faire mieux que cette descente-là. Alors, à partir de là, tu peux jamais perdre.
T'étais libre, t'étais soulagé.
J'avais fait ce que j'avais à faire, puis bon, j'aurais été déçu peut-être un peu là sur le coup.
Évidemment.
Mais c'est plus tard que j'ai vu le chiffre numéro 1. D'ailleurs, c'était drôle parce que on était Soupletchev, Gros Piron et moi. Puis c'était le fun parce que ces gars-là, aussi athlétiques, puis la rivalité qu'ils avaient, je voyais ces gars-là soulagés aussi. C'était drôle de les voir, ces espèces de brutes de compétition, là, de bolides de course, qui étaient devenus soudainement très humains. Là. Eux aussi étaient soulagés d'une pression épouvantable. Puis ils étaient en bas à côté de moi, puis on était vraiment là, trois gars contents. D'ailleurs, à un moment donné, Soupletchev, il a comme mis sa main pour que je mette ma main par-dessus. Puis spontanément, Gros Piron, qui est plutôt distant, lui aussi a mis sa main par-dessus. On était vraiment les trois mousquetaires. Puis cette période-là était vraiment agréable parce que durant les Coupes du Monde, durant cette année-là qui précédait les Jeux Olympiques, c'est toujours nous trois sur le podium à une position différente. On dirait que même le reste de la Coupe du Monde n'existait plus. C'était nous trois qui étions sur le podium. On était dans un trio bien à part, mais on ne savait jamais.
Ce communion-là avait-il déjà atteint ce niveau-là?
Jamais. Puis c'est Gros Piron que même quand le tableau s'est rempli de les points techniques, les points vitesse, les points ci, les points ça, il m'a donné un coup de coude en voulant dire, parce que moi je regardais ailleurs, je revenais pas de ce qui se passait. Il m'a donné un coup de coude puis il a dit regarde en haut. Puis tu sais, ça s'est rempli de chiffres, mais il y avait juste un chiffre qui décalait d'habitude. C'est le petit numéro 1. Dans le coin en haut à gauche avec une parenthèse de chaque côté. Puis là, je l'ai pas réalisé sur le coup parce que je me disais, wow, OK, c'est un, mais tu sais, là, t'es dans le contexte, t'essaies de te remettre. Puis là, je me disais, hey, je suis le dernier. J'étais le dernier à descendre. Il n'y en a plus d'autres. Là,
c'est fini.
Fait que, puis tu sais, la chanson qui jouait, Here Comes the Sun, c'est parce que quand on est au départ, les trois en haut, on a vu que le soleil est en train de regagner sur la brume. Et tu sais, on voyait vraiment la ligne d'ombre. Quand vous regardez le vidéo de cette descente-là, la prise de caméra du haut de la pente, on voit la ligne d'ombre vraiment quitter la piste. Puis le soleil réapparaît. Et la plupart des autres compétiteurs, des 16 hommes, avaient compétitionné dans le brouillard. Donc, il y a une difficulté d'anticipation visuelle parce que t'as comme un filtre opaque, là, quand tu descends, tu vois pas le soleil, les reliefs, les ombres sont plus différentes. Donc, nous, on avait un avantage, puis particulièrement moi, où le soleil était vraiment présent. Mais quand j'ai vu le soleil apparaître en haut, avant de descendre, je me suis pas dit, waouh, c'est un signe, là. Je me suis juste dit, ben, c'est un avantage. Il est là. Je vais en tirer parti le plus possible. Ça te permet simplement de mieux anticiper, de réagir une fraction de seconde plus rapide à chacune des bosses, parce que c'est littéralement ça. Et ce qui était vraiment fascinant de cette descente-là, c'était l'espèce de moment de grâce au milieu qui arrive vraiment pas souvent. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris dans ta vie ressort à ce moment-là. Puis tout se met à aller au ralenti alors que ça n'a jamais été aussi vite. Et ça, là, c'est je pense que de mes souvenirs de course, là, c'est probablement le moment le plus trippant. Là. Pendant une dizaine de bosses, je flottais. Là. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas rien pour m'arrêter. Là. C'était facile. J'avais jamais été aussi vite. J'avais l'impression d'aller au ralenti. J'entendais juste un bruit sommaire de la foule de chaque côté. Puis pourtant, je les voyais crier fort dans une vision périphérique qui n'avait jamais été aussi large parce que tu vois tout ce qui se passe. Puis le moment magique, c'est vraiment le 5 minutes que t'as tout seul en bas avec tes amis compétiteurs qui font leurs affaires aussi. Là, t'es loin de tout. T'es juste seul à savourer ça. Puis tu regardes alentour, puis les gens étaient vraiment contents. Il y avait un Québécois qui avait une petite pancarte qui avait découpé sur un truc de l'Est. Et c'était écrit « Go, Jean-Luc! » Puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer par après. C'était fantastique. Après la course, puis même ici, j'ai eu l'occasion de le recroiser. Lui, il s'était acheté un billet d'avion parce qu'il trippait trop. Il avait été là, puis ça avait été vraiment une expérience phénoménale. Mais tu sais, après, ça va vite. Là. Tu rentres dans ce que les gens appellent le car wash. Le car wash, c'est les 200 entrevues que tu dois faire dans le Serpentin avec le gars d'antidopage qui t'a mis un cordon dans le cou pour te traîner le plus vite possible à l'antidopage. La fille des médias qui tire de l'autre côté pour faire la tournée de toute l'affaire. Puis dès que t'as fini, il t'amène dans une van, puis il t'amène, nous c'était en haut de la pente, dans une petite cabane, pour le test antidopage. Mais t'as pas envie, parce que le stress fait que t'as envie. Tu vas à la toilette avant de descendre, mais après, là, t'es complètement vide. Là. Alors, les 4 premiers, position 1, 2, 3, 4, plus une position random, mettons 23e, tirée au sol, au sort. Même chose chez les femmes, se ramassent dans cette petite maison-là, et le test antidopage, tu sais, c'est il n'y a rien, il n'y a aucune manutention autre que toi avec tes gobelets. Pis c'est drôle parce que là, t'es soudainement champion olympique, mais t'es down to earth, t'as regardé tes petites éprouvettes, puis tu remplis tous les chiffres, faut que tu dises les chiffres à la personne qui les prend en note, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils sont ci, est-ce qu'ils sont ça. Puis à un moment donné, ben tu bois du liquide, mais tu bois jamais juste de la bière, tu bois pas de bière, tu bois du jus d'orange pour rendre l'urine consistante sans être trop liquide. Puis le problème, c'est quand tout le monde a envie en même temps, t'as une toilette, puis là, tout le monde a vraiment envie en même temps, puis ça prend quand même un certain temps, puis un test antidopage, tout le monde dit « Hey, fais-en tout le temps. » C'est pas le fun parce que tu rentres vraiment avec le chaperon dans l'urinoir ou dans la toilette et lui, là, il est pas en arrière de toi. Là. T'as les culottes baissées aux genoux puis il regarde exactement où ça sort. Puis c'est quand même intimidant là, quand tu commences à essayer de faire pipi puis t'as un monsieur là, qui est à deux pieds de ton entrejambe puis qui regarde. Puis là, tu sais, là, t'as trop envie pour l'éprouver.
On est loin de la magie que tu viens de vivre.
Non, c'est complètement différent. Mais ce qui avait été bien agréable par la suite, par exemple, c'est que pour nous amener au podium, les Norvégiens, ils nous avaient réunis. Puis là, j'avais pu voir, mes parents étaient montés aussi, dernière minute, là, aidé par Bernard Gendron de l'agence de voyage, à qui ma mère avait enseigné au secondaire. Puis il avait dit, ah, je vous trouve des billets d'avion, allez voir votre gars. Mais j'avais jamais vu mes parents, il y avait trop de monde. J'avais pas essayé de les chercher, justement, pour pas commencer à regarder. Plutôt, je me suis concentré sur mon affaire. Mais après, on s'est retrouvés, là, quelqu'un les a trouvés, puis on a réussi à se voir. Et ils m'ont laissé être avec mes parents. C'était vraiment beau, dans une espèce de sleigh ride, un traîneau,
sur ski, exact,
qui était traîné par des vraies reines. C'est des vraies reines qui traînaient ça. On avait des grosses peaux d'animaux sur nous autres. C'était vraiment magique. Puis, tu sais, c'est le fun de partager ça avec ses parents. C'est eux autres tes premiers commanditaires. Quand ça va mal, c'est eux autres que t'appelles. Tu sais, que t'as 21 ans, 18 ans, 28 ans, c'est tes parents qui t'appellent quand ça va mal. Puis à un moment donné, tu prends des chemins un petit peu différents parce que ils peuvent pas toujours être avec toi, ils peuvent pas toujours t'accompagner tout le reste, ils t'accompagnent toujours aux courses pour pouvoir les remercier pour les voyages, tout ça. Mais tu sais, le fait que Bernard ait pensé à eux autres, qu'il les a amenés, puis qu'on ait partagé ça, ça c'était le fun.
Wow! quel récit! très touchant et qui t'habite encore. Hein,
c'est... Tu sais, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'après ça, ils ont essayé de... Pas mes parents, mais les organisateurs ont essayé d'un petit peu trop en faire. C'est qu'il y avait une grande lignée de blocs de glace. Le podium, c'était des blocs de glace, fait que c'était super beau. Et il fallait marcher. Ils nous avaient dit la chorégraphie. Alors, il fallait marcher, les trois athlètes, les trois médaillés. Rendu au bout, on tournait à droite, on arrêtait là, on faisait bye-bye aux journalistes, après on allait à gauche, on faisait bye-bye, je sais pas quoi, des photographes, peu importe. Et après, on allait derrière le podium, puis écoute, trois gars-là qui sont contents, qui ont des médailles, qui en ont rien à serrer de la chorégraphie, on est partis les premiers, là. On a pris trois directions différentes, on voyait du monde qui nous faisait des signes, on a tout scrappé la chorégraphie, pour finalement se retrouver derrière le podium. Et là, ben, tu sais, là, c'est le fameux podium. Puis, la personne qui me remettait la médaille, c'est un Français qui était le premier à monter à 8000 mètres sur l'Annapurna. Il s'appelle Maurice Herzog. Mais le problème, c'est que le bonhomme, il a tout perdu ses doigts de pied puis ses doigts. Alors, gros Piron m'a donné un autre coup de coude, il m'a dit, fais gaffe, il a plus de doigts, tu sais, quand je suis arrivé pour lui serrer la main. Okay. Et bon, sur le podium, puis je connaissais l'histoire, c'est que ça a bien été. Mais tu sais, le moment du podium, chacun le vit à sa manière. Moi, je voulais trop le vivre, pensant que c'était pour être là le kick de l'illumination. Mais quand tu veux trop le vivre, là, regarde, ça a été un beau podium. Puis regarde avec notre réalité aussi, l'hymne national a joué. Ben là, il y en a un qui me dit, qu'est-ce que tu vas chanter? Mais je chanterai pas. Parce que si je chante en français, ça va tomber sur les nerfs des autres. Si je chante en anglais, ben je connais pas toutes les paroles. Ça fait que j'ai décidé de pas chanter. Mais tu te rends compte, sur le podium, je suis en train de penser aux enjeux politiques. Puis finalement, je décide de rien faire pour pas créer de polémique. Fait que tu sais, le moment pour moi, ça a vraiment été en bas de la pente. C'est là que le beau kick, disons, de ma carrière de compétiteur a ressorti.
Récit d'un moment marquant, il y a 30 ans aujourd'hui, Jean-Luc, il y a tellement plus à dire que ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Alors je te dis, à la prochaine. Je te dis merci beaucoup.
Bonne émission, Mario.
Et au plaisir. Puis je pense qu'il faut finir ça comme ça a fini à ce moment-là, hein? Here comes the sun. Bon week-end, Jean-Luc.
Merci, Mario.
C'était Jean-Luc Brassard, champion olympique, il y a 30 ans aujourd'hui.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.